French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Au nom de la solidarité entre expatriés.
Bon, nous travaillons ensemble dans une communauté d'idées.
Ça, c'est une bonne question.
Moi, je n'ai qu'une question à vous poser.
Salut, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Expat qui va être consacré à une thématique pour laquelle vous me contactez depuis des années très régulièrement. Cette thématique, c'est la culpabilité qu'on peut ressentir, ou pas d'ailleurs, lorsque l'on est expatrié. Ce que j'entends par expatrié, ça veut dire qu'on est parti de là où on a grandi. Ça n'a absolument rien à voir avec le contrat de travail que l'on peut avoir ou non. Pour répondre à vos questions, très nombreuses, hein, on a reçu une cinquantaine ou soixantaine de témoignages sur Instagram. Je suis très heureuse d'être accompagnée aujourd'hui par Elena Covo, qui est basée à New York. Elle est psychoclinicienne diplômée en France et aux États-Unis, marriage and family thérapiste, qui fait donc de la psychothérapie individuelle, de famille et de couple. Bienvenue Elena.
Oui, bonjour Anne-Fleur, merci de me recevoir aujourd'hui.
Avec grand plaisir, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors écoute, j'ai envie de te proposer qu'on rentre directement dans le vif du sujet et peut-être qu'on définisse finalement de quoi on parle. C'est quoi la culpabilité lorsque l'on vit à l'étranger ?
Alors, très bonne question. Alors déjà, c'est un sujet qui revient beaucoup en thérapie, comme tu l'as dit, mais aussi dans des conversations entre expats, pas que francophones d'ailleurs. Alors, j'aime bien rappeler un petit peu le sujet. Déjà, qu'est-ce que c'est la culpabilité, juste très brièvement ? Je dirais que c'est un ressenti affectif assez désagréable, hein, quand on y réfléchit, un peu négatif, qui nous tourmente, associé, je dirais, à cette croyance, finalement, qu'on ait fait peut-être quelque chose de mal, qu'on ait fait du tort à quelqu'un. Et quand on part de ce principe-là, alors qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de l'expatriation ? Il y a plusieurs façons dont la culpabilité va ressortir. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je vais les nommer. Après, je pense qu'on va avoir l'occasion
de revenir dessus.
Voilà. Alors, je dirais déjà dès le départ, c'est la culpabilité quand on prend la décision. Ce que j'appelle moi la culpabilité avant de partir ou de partir. Là, on va y revenir parce que elle va forcément être impacté par la façon dont on prend la décision. Alors, si c'est nous qui sommes acteurs de cette décision, si finalement on a l'impression un peu de la subir, ou de l'imposer, voilà. Est-ce qu'on a inclus nos proches quand on a pris notre décision? Donc tout ça, ça va jouer énormément. Donc on va y revenir tout à l'heure. L'autre forme de culpabilité, bah, c'est une fois qu'on y est. Alors, je vais aussi expliquer. C'est finalement la culpabilité de pas être présent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on arrive, et ben très rapidement on est rattrapé par des dates, il y a un mariage, il va y avoir un anniversaire, il va y avoir une naissance.
Les grands moments et puis, qu'on loupe.
Exactement. Et qu'on n'avait pas forcément anticipé. Parce que je crois qu'il y a ce côté très... presque naturel et qui fait partie d'une forme de mécanisme de défense, de se dire bon, je vais tout faire, je vais faire en sorte d'être présente au maximum, vous inquiétez pas, je vais revenir. Et puis en fait on est rattrapé. D'abord, c'est pas forcément possible, en plus il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées, un décès, une maladie, et puis et là donc forcément la culpabilité, je trouve, est beaucoup plus forte quand on est finalement déjà installé. Voilà. Une autre culpabilité qui ressort énormément en thérapie, c'est vis-à-vis des enfants, si on a des enfants. Alors là, pareil, je rentrerai un petit peu dans les détails après, mais en fonction de est-ce qu'ils sont nés en France, est-ce qu'on si on a l'impression parfois de les déraciner.
Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ouais.
Voilà. Ou alors ils sont nés aux États-Unis, on a l'impression qu'on leur enlève leurs grands-parents, ou alors qu'on enlève aux grands-parents la possibilité d'être avec les petits-enfants. Et je dirais deux un peu moins présentes, mais qui sont ressorties quand même, et alors ressorties finalement aussi à travers les réseaux sociaux, quand on a posé les questions ou quand...
Quand on a parlé de cet épisode, ouais.
Exactement. C'est la culpabilité de réussir pour certains.
Ah ouais.
Parce que leurs familles n'ont pas forcément les mêmes moyens ou vont peut-être avoir des difficultés financières, économiques ou autres. Donc, c'est ce sentiment d'être un peu...
D'abandonné.
Parti et d'avoir laissé. Ouais. C'est ça. Et puis, la dernière, c'est... et c'est assez surprenant, finalement. C'est la culpabilité de... Que j'appellerais presque... d'adaptation. C'est-à-dire, on s'est tellement bien adapté qu'on a l'impression qu'on a perdu une partie de soi.
Oh, ben ça, c'est quelque chose qui revient, mais tellement souvent, de se dire... Je rentrerai bien en France ou ailleurs, peu importe où on a grandi. Là, j'imagine dans un pays francophone pour nos auditeurs et auditrices. Mais je me sens plus, alors je sais pas, nous deux, on est aux États-Unis, je me sens plus américaine que française. Me sens plus, j'en sais rien, anglaise, allemande. Enfin, c'est vrai qu'on a, c'est un type de culpabilité que j'ai pas mal lu. J'ai une question pour rebondir là-dessus avant de parler justement de tous ces types de culpabilité et de répondre finalement aux questions qu'on a reçues sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des types de personnalités qui peuvent être plus susceptibles que d'autres justement à ressentir cette culpabilité?
Alors, disons que quelqu'un qui va déjà être un peu perfectionniste, qui va avoir ce que je vais associer même à une forme d'autocritique, va potentiellement être plus à même de se critiquer, autocritiquer de ses propres choix. Voilà, et pas forcément être aligné avec sa décision. Je ne sais pas si ça répond à la question d'une personnalité.
Ou des traits de personnalité, des facteurs psychologiques, comme tu le dis autrement.
Disons, voilà, quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un qui a peur... Je dirais que c'est aussi relié à au vécu de chacun.
Ouais.
C'est pas tellement qu'une personnalité, c'est aussi et ça je voudrais vraiment vraiment souligner ça aussi, souligner ça aujourd'hui, c'est l'histoire qu'on a avec notre famille,
ouais.
Les liens qu'on a avec eux. Il y a des choses qui ne sont pas forcément réglées quand on part.
Tu as des exemples de choses pour comprendre exactement de quoi tu veux parler?
Tout à fait. Alors, on parle beaucoup, sans rentrer dans le détail, parce que là, on va partir sur un autre sujet, qui est donc l'attachement sécure, pas sécure. Alors, en fonction aussi de la relation qu'on a avec notre famille, est-ce qu'on est dans une famille où on communique facilement? Est-ce qu'on est dans une famille où on va dire les choses? Est-ce qu'on a tendance à les mettre de côté? Est-ce qu'on est plutôt dans le non-dit? Est-ce qu'on va éviter les conflits? Ça, c'est hyper important parce que finalement, ça va avoir un impact sur comment on fantasme, on imagine l'attente en fait qu'on a de nous. Je vais toucher aussi à un moment donné, je ne sais pas si on va avoir l'occasion de parler des attentes familiales, mais des attentes aussi culturelles, ça peut avoir un impact énorme. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est ce qui est attendu dans ma culture, dans ma famille? Est-ce que finalement partir, ce n'est pas quelque chose qui fait de moi une mauvaise personne, un mauvais enfant de
selon
mon parent?
Selon les valeurs de ma famille et de mon environnement, quoi. Et
voilà,
on
exactement.
A... alors, moi, c'est mon vécu personnel, mais je sais que tu vois, pendant, je pense, les 5 premières années de ma vie à l'étranger, mon côté people pleaser, alors je sais pas trop comment on dirait ça en français, mais le fait, en fait, si tu veux, d'une certaine manière de fuir la confrontation et peut-être un petit peu les conflits, de toujours vouloir que tout le monde soit content d'une certaine manière, moi perso, ça a fait en fait que je passais énormément de temps en fait à rentrer en France, à rester en contact, etc. Et finalement, moi, ma vie sur place, j'étais pas du tout ancrée en fait, parce que j'avais toujours un peu une jambe d'un côté comme de l'autre de l'océan. Est-ce que c'est un trait que tu retrouves un peu aussi chez tes patients?
Ah mais complètement. Je pense que justement, tu dis plusieurs choses. C'est presque cette compensation. On est parti, je dois compenser.
Exactement.
Voilà. Effectivement. Donc oui, people pleaser. En français, on dirait vouloir faire plaisir, vouloir être là pour les autres, mais à un point peut-être où on s'en oublie nous-mêmes en fait. Ça, là, on en vient aussi au sujet des boundaries, qu'on dit en anglais, hein, de poser des limites, voilà, limites de soi, etc. Mais pour revenir à ça, ce côté, moi, je dis toujours, parce que je le retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense que même moi, à un moment donné, je l'ai vécu. Ce côté, je rentre en France. Alors, je vais prendre l'exemple de la France parce qu'on nous sommes francophones. Donc, je rentre en France. Il faut que je voie tout le monde. J'ai intérêt à rattraper le temps parce que je n'ai pas pu être là pour les 60 ans de cette personne. Je n'ai pas pu être là pour la naissance de cette personne. On arrive avec les cadeaux. On arrive avec... Et ça devient un marathon.
C'est exactement ça, ouais.
C'est ça. Et ça devient un marathon. Et en fait, on est... exténué. Et alors, le danger avec ça, c'est que, un, on n'en profite pas tellement.
Ouais, on s'oublie.
Quand on revient, voilà. Et de deux, sur le moment, on ne profite, mais absolument pas. On est tellement fatigué. Le temps qu'on a envie de passer avec nos grands-parents, on est déjà en train de penser au prochain rendez-vous, à la personne qui... Enfin,
ouais.
Moi, je me suis
retrouvée dans une situation... T'es pas dans le moment, finalement. T'es pas dans le moment présent du tout.
Exactement.
D'accord.
On n'est pas dans le moment. Et l'autre problématique que je rencontre et que je dis souvent à mes patients, c'est faites attention. Parce que quand on compense comme ça, eh bien, on peut créer ce que j'appelle vraiment une forme d'amertume, une forme limite de colère contre son entourage, alors que finalement, il n'a rien demandé. Parce que on fait pour compenser, pour faire plaisir aux autres, parce qu'on pense que ça fait plaisir aux autres, et en fait, on ne répond pas à ses propres besoins, et là, on n'est pas du tout aligné avec soi-même. Et ça peut être projeté sur les autres. Voilà. Voilà ce que vous me faites faire, voilà, c'est fatigant, voilà ce que je dois, voilà dans quelle situation je me mets, alors que finalement, c'est
des choses
c'est
qu'on s'impose parfois à nous-mêmes.
C'est ça.
Rentrons dans le vif du sujet, parlons peut-être du premier type de culpabilité que tu as mentionné, la culpabilité de partir. Comment ça se fait du coup que certaines personnes ressentent cette culpabilité? Et un peu comme tu le disais quand tu nous parlais des types de personnalité, des facteurs psychologiques, j'imagine que certaines personnes sont plus susceptibles de ressentir la culpabilité de partir. Du coup, j'imagine par rapport à leur contexte familial que d'autres au moment où elles vont décider de partir vivre à l'étranger?
Tout à fait. Alors, la culpabilité de partir, je dirais que donc du coup, bon, il y a plusieurs facteurs. Déjà, est-ce que c'est une expatriation temporaire? Si c'est une expatriation temporaire, disons que la culpabilité elle va pas forcément venir de façon aussi violente, parce qu'on sait, hein, c'est une façon aussi de se rassurer, on sait qu'on va revenir, on sait que c'est temporaire, ça arrive, hein, certains ils ont des contrats de 5 ans, etc. Bon. Quand c'est une expatriation un peu comme ça à l'aveugle, avec, comme tu disais tout à l'heure, on est aux États-Unis, cette envie peut-être d'obtenir la green card, de rester longtemps, et on sait que ce sont des démarches compliquées, eh bien là, il y a ce côté, je laisse les gens derrière moi, je les abandonne, je vais pas être là pour les soutenir. Et pourquoi il y a cette culpabilité dès le départ? Parce qu'il y a une notion d'attachement.
Ouais.
Alors attention, quand je dis ça... Je cherche. Alors, c'est très important.
Ça veut pas dire que les gens qui ressentent pas la culpabilité sont pas attachés à leur famille.
Voilà, j'allais dire ouais. Ça parce qu'il y en a certains.
Il y en a qui la ressentent pas du tout, et tant mieux pour
eux. Exactement. Mmh. Et peut-être qu'on en parlera ou pas, mais ça ne veut pas dire ça. Mmh. Mais il y a quand même cette notion d'attachement qui est extrêmement importante. C'est que finalement, c'est ça qui nous amène à nous pousser aussi dans nos limites. On a envie de faire plaisir, on a envie d'être là, on est soucieux. De faire partie de ces moments importants. Voilà. Donc, la culpabilité, moi, je dis, elle arrive dès le départ quand il faut prendre la décision. Et je disais, donc, le contexte est important. Comment on prend la décision? Avec qui? Est-ce que c'est nous qui entraînons l'autre? Est-ce qu'on entraîne 3 personnes, 4 personnes derrière nous? Est-ce qu'on l'a subi, cette expatriation? Est-ce qu'on a des parents qui nous soutiennent? Alors, ça aussi, j'y reviendrai. La validation, on cherche beaucoup la validation, mais en réalité, la validation, elle est à l'intérieur de nous. On a beau la chercher chez les autres, tant qu'on n'est pas au clair avec ses choix, voilà, on sera toujours dans cette compensation. Mais bon, voilà, donc la culpabilité, elle, de partir, elle est là dès le départ, entraînée par tout ce que je viens de dire, donc l'attachement, le besoin d'être proche des gens qu'on aime, etc. Maintenant, encore une fois, on parlait de... Alors, je reste sur... La culpabilité de partir, mais ce que je vais dire là touche toute forme de culpabilité. C'est parce que tu parlais de personnalité. Tout à l'heure, j'évoquais le perfectionnisme et l'auto-critique, mais ça, c'est très important parce que dès le départ, on quelqu'un qui est perfectionniste, alors est-ce qu'il est perfectionniste par nature, c'est-à-dire est-ce qu'il est né comme ça, est-ce qu'il est devenu perfectionniste parce que son entourage a toujours eu des attentes très importantes pour lui? Bon, ça, on rentre dans un sujet différent, certes, mais c'est important de savoir ça parce que finalement, on a des standards très élevés. On a un idéal. Un idéal, ça peut être par exemple, eh bien moi, j'avais imaginé que une famille doit rester unie, mes parents vont vieillir, je dois m'en occuper. En s'éloignant, on s'éloigne de son standard et donc du coup, l'autocritique ressort. Et puis, il y a autre chose aussi derrière le perfectionnisme, c'est peut-être, et je pense que c'est relié aussi à tout ça, une peur du jugement. Parce que finalement, pourquoi on est perfectionniste? On est perfectionniste parce que si on a ce semblant de contrôle, eh bien, on va pas laisser la place au jugement. Eh bien, il y a peut-être un peu de peur du jugement aussi quand on s'en va. D'ailleurs, tu n'as jamais entendu les gens dire c'est une forme d'égoïsme de partir.
C'est vrai, c'est vrai.
Et voilà. Donc, il y a quand même, peut potentiellement y avoir du jugement, ou alors on projette la peur du jugement.
Mais c'est super intéressant. Il y a Laurence qui partage son expérience et qui nous disait « Moi, en fait, j'ai une culpabilité qui est complètement décuplée avec ma famille, notamment quand je rentre, donc comme tu le disais, où on se met une pression incroyable pour essayer de voir tout le monde. » Et elle disait « Mais en fait, c'est physiquement impossible de rattraper un an en un mois. C'est complètement illusoire comme comportement, mais en même temps, j'arrive pas à m'en défaire. Et c'est un peu la seule manière que je connais pour compenser mon absence physique, quoi.
Oui, et donc du coup, en fait, les risques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de ne pas réussir à profiter de son voyage, voilà, de s'oublier, de tellement se focaliser sur les autres que finalement, on en revient encore plus exténué, fatigué. On profite pas forcément de l'interaction qu'on a eue avec la personne qui nous manque. Mais je comprends, j'ai de l'empathie, j'ai de la compréhension pour cette personne. Je pense qu'on le vit tous. Et on va sûrement revenir sur qu'est-ce qui aide, la résilience. Mais le temps aide, le fait d'être au clair avec ses choix et de communiquer. Je vais y revenir beaucoup, beaucoup aujourd'hui sur la communication. Et donc, je lui conseillerais de vraiment communiquer, ouvrir la communication avec sa famille, les gens qu'elle aime, et leur dire, voilà,
c'est difficile,
je ne t'oublie
pour
pas. Voilà, ouais. C'est difficile pour moi, je ne t'oublie pas, je n'ai pas choisi de partir pour être loin de toi. Voilà, quand je reviens, je dois faire des choix pas basés forcément sur la préférence, mais parfois sur la logistique. Ouais. Et puis aussi, je sais que ça paraît, ce sont des détails, et pourtant, essayer de réunir les gens quand on revient. Maximum, voir des groupes d'amis ensemble.
Moi, j'avoue que c'est ce que j'ai beaucoup fait quand je suis partie. J'ai grandi dans plein de coins, tu vois, de France. Et honnêtement, moi, le tour de France, ça n'a jamais été trop pour moi. J'adore voyager, mais pas sous la contrainte.
Voilà, voilà.
Et donc, je me retrouvais généralement à un lieu central et je dis, OK, vous voulez me voir, je suis là de temps à temps. Vous êtes les bienvenus, mais moi, j'ai fait les 5000 premiers kilomètres. Je vous laisse faire les 20 derniers, quoi. Tu vois.
C'est ça.
Mais après,
c'est
je ne dis pas que ça convient à tout le monde. Mais c'est vrai, c'est réussir à trouver des limites qui font que ça ne devient pas une contrainte, que ça ne devient pas un voyage si difficile à vivre.
Exactement.
J'aimerais bien qu'on parle de des stratégies justement qu'on peut utiliser pour atténuer ce sentiment de culpabilité au moment du départ spécifiquement. Tu parles de la communication. Il y a Frenchie en vadrouille qui nous envoyait un petit message et qui disait « Maintenant que les grands-parents, ses grands-parents à elle en fait, sont partis, les parents vieillissent et dans sa tête, en fait, ça tourne sans cesse. Comment est-ce que je vais pouvoir les aider ?» Elle vit aux États-Unis, il me semble, avec le peu de vacances qu'elle a. En fait, parce qu'il y a l'envie. Je pense que l'envie, y a plein de gens qui l'ont. Mais après, tu as une réalité en fait, de ton quotidien, loin finalement des tiens. Comment est-ce que tu arrives à vivre avec cette culpabilité, si ce n'est trouver des solutions différentes?
Oui, alors déjà, je voudrais normaliser vraiment le fait que ce sont des sentiments, la culpabilité, la tristesse, la peur, ce sont des sentiments communs, normaux dans un sens, parce que oui, voir les parents vieillir, c'est une réalité et c'est difficile au quotidien, surtout quand on est loin. Je parlais de communication, tu as raison, et je vais le redire, absolument ouvrir la communication, créer ce que j'appelle moi un lien de confiance, pouvoir comme ça discuter, interagir, demander comment on peut les aider, peut-être mettre en place un plan de soutien. Alors s'il y a des frères et sœurs, ça peut aider également. Parfois, il n'y a pas de frères et sœurs, donc ça repose beaucoup sur nous. Donc ce qui est très compliqué, évidemment, c'est quand je parle de communication, c'est d'identifier qu'est-ce que eux ils ont besoin, comment nous on peut aider, qu'est-ce que nous on peut faire, mettre aussi des limites, mais même pour nous-mêmes, pas tellement pour eux. C'est de se dire voilà jusqu'où je peux aller, voilà mes capacités, être bienveillant avec soi-même, parce qu'en fait, même si vous étiez pas loin, la vie fait qu'on a des obligations, la vie fait que parfois on peut pas toujours faire ce qu'on avait anticipé, voilà, imaginé, fantasmé, et donc c'est très important de mettre en place, voilà, donc, comme je disais, surtout dans ce cadre précis, parce que tu me posais la question par rapport aux parents ou aux grands-parents, hein, qui vieillissent, d'être dans une communication constante, de se voir, de se faire des visios. Moi, je dis ça constamment parce que je trouve que ça, évidemment, ça remplace pas l'aspect physique, mais on peut faire quand même beaucoup de choses en se voyant à travers.
On peut impliquer les gens dans notre quotidien, en fait.
Exactement. Ouais. Avec la caméra, puis les enfants peuvent être là, etc. Mais de vivre avec ça au quotidien, c'est sûr, je le dis, ce n'est pas facile. Après, on va discuter des différents degrés. Moi, je vais avoir des patients qui, si c'est une question on parle de coping en anglais, de gérer les émotions. On trouve au quotidien en incluant les uns et les autres, en trouvant des compromis, en communiquant, en mettant en place un calendrier, en se retrouvant en vacances, dans des lieux, et puis qui viennent aussi nous rendre visite. Donc, il y a des solutions comme ça, un peu logistiques, un peu qu'on peut mettre en place, certes, mais quand il s'agit vraiment de soi, c'est se rappeler. Et ça, je vais le redire beaucoup parce qu'encore une fois, ça touche toute forme de culpabilité. C'est pas que au départ, c'est vraiment se rappeler de pourquoi on a pris cette décision, d'être au clair avec sa décision, de se recentrer, communiquer aux autres pourquoi on l'a fait, de les inclure dedans, de leur dire aussi que c'est difficile pour nous, qu'il nous manque, de pas avoir peur d'être vulnérable. Hein, c'est très important parce que pourquoi je dis ça, parce que quand on ne parle pas, quand il y a un manque de communication, ça peut ouvrir à l'interprétation. De toute façon, elle s'en fout, elle est partie, elle vit sa vie, il est égoïste, il a préféré faire ça. Alors que quand on communique, bah on vient rassurer, finalement.
Et est-ce que, justement, tu as des astuces, en fait, de communication ? Je pense à ça parce que je trouve des paroles très culpabilisantes. Parfois, en fait, c'est juste un choix des mots aussi qui fait qu'on se sent très mal par rapport à tout ça. Ça peut être « tu me fais du mal »,« tu as décidé »,« tu machin ». Et en fait, du coup, on les reçoit un peu comme une grosse attaque. Alors qu'utiliser le « je », disant « je suis malheureuse que tu sois partie »,« je suis triste, tu me manques énormément ». Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais... Est-ce que tu as quelques conseils justement par rapport à ça ?
Mais non, mais ça, c'est alors totalement vrai. Je l'utilise d'ailleurs avec les couples que je vois. Si on utilise le tu, on est déjà dans l'accusation. Alors que si on dit je ressens si, je ressens ça, j'ai vécu ça comme si, on ouvre à la discussion. La personne est moins réactive, mais elle est plus réceptive. Donc tout à fait. Alors par contre, dans ta question, tu poses déjà la question de finalement, je vais peut-être un peu loin, mais là tu touches un sujet qui est qu'est-ce qu'on fait quand les gens nous culpabilisent ?
Ouais.
Parce que c'est ça que tu es en train
d'évoquer.
C'est
ça, ouais. Oui, des fois on peut ne pas ressentir la culpabilité, mais on peut nous la mettre un peu dans la tronche en disant...
Voilà, c'est ça.
Moi je sais que chaque départ, tu vois, ça fait une quinzaine d'années que je suis partie. C'était pas le cas au début, mais maintenant, de plus en plus, quand je dis au revoir à ma maman spécifiquement, je sais qu'elle cherche pas à me rendre mal, mais ses paroles me retournent le bide, tu sais, à chaque fois, à se dire « Oh, mais qu'est-ce que je lui impose, quoi, tu vois ?» En fait, c'est par ces mots qu'elle me fait ressentir cette énorme culpabilité. Et comment est-ce que tu arrives à communiquer sans être sur la défensive, du coup, et en posant tes limites, comme tu le dis ?
Alors, oui. Alors, voilà. Les limites en fait partie de ma réponse. Alors, déjà, il y a une chose, parce que ça, c'est un sujet qui revient énormément. Elle me culpabilise, il me culpabilise. Et donc, je dis souvent, alors, décortiquons ça, en fait. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui est dit. Et parfois, pas toujours, donc je vais répondre à la question, mais parfois, ce n'est pas de la culpabilité, mais mais plutôt de la tristesse. Et ça, ils ont le droit de communiquer une certaine tristesse. Voilà. Donc, ou une certaine émotion. Donc, par exemple, allez, je vais donner un exemple. Ça va être quelqu'un qui va dire, oh, c'est tellement dommage que tu puisses pas faire partie de cet événement, tu vas nous manquer. Bon. OK. Ça, c'est une forme de tristesse. C'est un ressenti qui est véhiculé. Face à, et ce que je vais dire est un peu violent, mais je l'ai déjà, c'est quelque chose qui voilà, c'est quelque chose, non, c'est quelque chose que j'ai, qui se dit, hein, malheureusement. Par exemple, ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu t'es retrouvé aussi là-bas? Maintenant, t'es bloqué, c'est ta faute.
Oh, wow. Ouais.
J'ai déjà entendu, des amis ou voilà, dans le cadre, on va dire, de mon travail, des phrases similaires. Voilà. Ça, mine de rien, cette violence avec laquelle les mots vont être exprimés vient peut-être parler d'un dysfonctionnement au sein de la famille ou d'une difficulté à mettre des mots sur les mots, en fait, hein, MIX, finalement,
sur notre douleur.
C'est ça, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'elle cherche à dire, cette personne? Tu nous manques, je suis attristée, je le vis mal, j'ai pas imaginé ça, je cherche, voilà. Est-ce qu'elle cherche consciemment ou inconsciemment à nous culpabiliser? En tout cas, ça marche, d'accord? Donc, alors, dans la première, le premier scénario, c'est de la tristesse, eh bien, on accueille les sentiments, on communique, on valorise, on fait ce que j'appelle moi en anglais du reflective listening. Donc, on entend et on répète avec d'autres mots, on valide et on dit, mais oui, effectivement, c'est difficile et moi aussi, j'aurais bien aimé être là. Et on essaye de prendre de la distance avec ce qui a été dit parce que la tristesse, c'est un fait. Maintenant, si nous ressentions de la culpabilité, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de quelque chose presque de... Pas presque, c'est quelque chose de personnel, quelque chose qui n'est pas totalement résolu. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, du perfectionnisme, ça peut être...
Ce sentiment de besoin de validation.
Voilà, et d'autres qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, si la personne parle avec un peu plus d'agressivité, etc., c'est important de se protéger, c'est important à ce moment-là de se recentrer, d'essayer de pas être sur la réaction, la réactivité, la défensive, hein, c'est normal, quand on nous attaque, on a envie de répondre. Et là, comme je disais, ouvrir la conversation, dire, utiliser le jeu, comme tu disais très, très justement, dire, ça me fait du mal d'entendre ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre, qu'est-ce que tu cherches à me dire, est-ce que tu cherches à me dire que tu es en colère, tu as le droit d'être en colère, mais est-ce qu'on peut en parler? Cette expatriation, elle est parfois aussi difficile pour moi, mais j'essaye de trouver un terrain d'entente. Voilà. C'est vraiment d'essayer d'éduquer, en fait, la personne, et pas de la blâmer, trouver des compromis, essayer de comprendre qu'est-ce que la personne essaye de nous dire, trouver peut-être un juste milieu, sans non plus se perdre, hein. Et c'est là où, effectivement, tu avais raison, mettre des limites, connaître ses propres limites et être bienveillant avec soi-même quand ça se passe. Par contre, pourquoi je disais tout à l'heure que ça peut venir exprimer un mal-être peut-être plus profond avec la famille, c'est là où finalement la culpabilité, c'est pas si simple. Parce que si ça vient traduire un dysfonctionnement ou des non-dits, eh bien là, c'est un travail un peu plus approfondi qui est nécessaire, voire thérapeutique. Et puis, peut-être aussi ce que j'appelle moi une forme de deuil de l'attente parentale. Bon, bref, là, je rentre dans un sujet plus compliqué parce que...
Mais il y a peut-être des choses à résoudre, en fait, chez soi, pour apprendre
soi.
À vivre
c'est ça que j'appelle.
Cette situation.
C'est chez soi. Parce que malheureusement, c'est pour ça que je parlais de deuil, c'est un mot très fort, je suis consciente, parce qu'on ne peut pas vraiment changer notre famille. Donc, c'est un travail personnel et de se dire, voilà, s'ils ne savent pas communiquer avec moi, comment je peux vivre au mieux mon expatriation et mes choix sans rentrer dans une constante justification ou demande de validation.
Et il y a un truc aussi, alors, c'était pas en rapport avec la culpabilité, mais je me dis que ça pourrait s'y prêter. C'était un livre sur le couple multiculturel, etc. Et... qui donnait en fait un peu des clés justement de quand une personne exprime son mal-être, par exemple, par rapport à quelque chose, comment est-ce que tu l'accueillis? Et en fait, comme tu dis, c'est accueillir le sentiment. Et en fait, discuter ne veut pas dire trouver une solution tout de suite. Ça ne veut pas dire je dois prendre un billet d'avion dans les 10 minutes qui viennent pour dire « Ok, je t'ai entendu, j'arrive ». On ne peut pas mettre des pansements en permanence sur les choses. En fait, on a besoin de... Enfin, y a un travail plus fondamental et plus profond parfois à réaliser. Et l'écoute, on n'y coupe pas, quoi.
Exactement, tout à fait.
On a un autre type de culpabilité dont tu nous as parlé en introduction.
Alors, c'est le fait de ne pas être présent.
Voilà, la culpabilité envers les gens qui sont restés au pays, entre guillemets.
Voilà.
Et ne pas être présent, ne pas forcément créer du lien, ne pas... Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu as comme conseil, explication peut-être à nous donner ?
Comme je disais un petit peu tout à l'heure en introduction, cette culpabilité, elle va limite être associée à une perte de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, quand on part, on a un peu... C'est pas toujours conscient, mais on se dit on va tout mettre, on va être là on va venir le plus souvent possible, on va faire des allers-retours, etc. Sauf que une fois qu'on pose nos bagages, une fois qu'on crée un rythme, parfois il y a des enfants, alors ils vont à l'école, on se retrouve, alors chaque pays est différent, mais aux États-Unis les vacances sont limitées, et puis voilà, on crée une routine, on crée une nouvelle habitude, et là tout d'un coup on est rattrapé, comme je disais, par tous ces événements auxquels on ne peut pas forcément assister, qu'ils soient prévus ou imprévus. Et là, cette perte de contrôle, elle peut potentiellement générer une forme de culpabilité.
Ouais. Et alors, quelles sont les stratégies justement pour gérer ça? Et je le mentionnais un petit peu avec ces allers-retours que j'essayais de faire énormément au début. J'imagine que tu as peut-être des stratégies pour s'ancrer vraiment dans... Enfin, en fait, continuer à profiter de son quotidien, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on est parti. On n'est pas... Parfois, on peut partir pour mettre de la distance avec les gens qu'on quitte, mais voilà. J'ai pas l'impression que ce soit la majorité des cas. Quelles sont les clés, finalement, qui nous permettent de profiter aussi et savourer nos choix, finalement, d'une certaine manière?
Oui, alors là, c'est là où, en fait... C'est le travail thérapeutique, ouais. On va dire, que j'essaie de faire avec mes clients, ouais. On dit en anglais, ou patients, voilà. D'accord. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses qui viennent à l'esprit, et je sais que je me répète beaucoup, mais quand je dis qu'il faut se recentrer, donc il y a ce concept de mindfulness, et je crois qu'en français, on appelle ça la pleine conscience.
Ouais.
C'est de vraiment se porter son attention sur le moment présent. Qu'est-ce qui m'a amené à partir ? Cette expatriation, comment je la vis ? Qu'est-ce que je vis au quotidien ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Quels sont les bénéfices de cette expatriation ? Alors, si on rentre dans une conversation sur une expatriation négative qu'on subit, qui est désagréable, alors là, c'est encore un autre sujet. Donc, partons juste pour cette question, cet exemple, voilà, sur une expatriation qui est quand même agréable, anticipée, fantasmée, voire rêvée. Et donc, c'est vraiment se recentrer. En anglais, je dis souvent le mot to slow down, presque faire une pause sur image, regarder autour de soi et se dire, voilà, c'est pour ça que je suis ici. Voilà. Et donc, effectivement, ces événements, je ne peux pas forcément y aller. Comment je vais construire mon quotidien pour avoir le sentiment quand même de faire partie de ces moments importants, selon moi, qui sont aussi importants pour moi et pas que importants pour les autres. Sinon, encore une fois, on se retrouve dans une situation où on fait beaucoup pour faire plaisir ou répondre à une demande et on n'est pas forcément aligné. Si je peux donner un exemple personnel, c'est vrai que j'ai eu... une situation où, en fait, j'ai perdu mon grand-père. J'étais à 9 mois de grossesse, ouais. Littéralement.
Donc, immobile.
En plein Covid. Voilà. Ouais. Immobile, en plein Covid. Alors oui, effectivement, on peut dire que là, c'est plus facile de trouver une raison parce que j'avais pas le choix. Sauf que j'ai été quand même extrêmement perturbée par la situation. Je m'attendais pas à ce que ça se passe à ce moment-là. Une très grande tristesse. Eh bien, j'ai participé à ma façon. J'ai écrit une lettre, j'ai demandé à ma sœur de la lire pendant à l'enterrement, et ça m'a permis
d'être là, de communiquer, sans être voilà. Là physiquement, quoi.
C'est ça, communiquer mes sentiments et être là, etc. Mmh. Donc c'est une façon de répondre à cette non-présence, à cette absence, tout en étant présent, ouais. À sa façon. Mmh. Voilà. Quand on est vraiment, quand la culpabilité elle est vraiment forte, elle est constante, que ce soit la culpabilité à ne pas être présent, celle avec les enfants dont on va peut-être qu'on va évoquer plus tard, enfin, relié aux enfants. Peu importe la culpabilité, c'est aussi comment vous reformulez, comment on reformule sa pensée. Hmm. Si on est très négatif, si on voit les choses de façon constamment,
c'est contagieux.
On va être déjà dans ce... c'est ça, voilà. Ouais. Et on est bloqué dans un cercle vicieux, en fait. Donc, c'est reformuler les pensées, se souvenir de pourquoi on a commencé cette expatriation. Et au lieu de se dire, je parlais d'égoïsme tout à l'heure, mais c'est vraiment un mot qui revient malheureusement, je ne suis pas égoïste parce que... alors, au lieu de se dire, je suis égoïste parce que je ne suis pas là, c'est de se dire, je suis là à ma façon et je vais partager mes sentiments, mon émotion et mon amour pour ma famille d'une façon différente. L'autocompassion, j'en ai parlé tout à l'heure, d'être bienveillant avec soi-même, hyper important. Et on peut parler, en maintenant ou tout à l'heure, aussi de la régulation de ses émotions. Comment on régule ses émotions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment prendre soin de soi. Tout ça, c'est extrêmement important.
Parce que c'est des choses qu'on apprend à nos enfants, mais qu'en tant qu'adulte, on se rend compte qu'on ne nous a pas beaucoup enseigné quand
tout
on était petit.
Tout à fait.
Est-ce que tu as des astuces justement là-dessus pour apprendre à accueillir ses propres émotions et à les réguler?
Oui, alors ça demande beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. Disons que, déjà, voilà, il faut trouver ce qui vous parle à vous, hein, je dis à vous en général. Mais donc, il faut essayer différentes choses. La respiration, hein, travailler sa respiration, réguler son rythme cardiaque. Ça, on sait, ça vient diminuer l'anxiété qui peut générer la culpabilité. Ça va être aussi la méditation. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Il y a plein de applications que vous pouvez télécharger, gratuites ou pas gratuites.
Exactement. Petit Bambou en France qui est...
Ah, Petit Bambou, je ne connaissais pas. Ouais. Calme ici, Headspace aussi, je crois. Voilà, donc très intéressant. Ça vous met dans un état d'esprit un petit peu plus calme, un peu plus posé.
Et même si vous avez surtout... l'Apple Watch, il y a les rappels de mindfulness
je ne savais pas.
Vous recevez des petits tapotements quand vous devez inspirer. Puis expirer, et on vous invite à le faire plusieurs fois par jour à une fréquence que vous pouvez définir. Et,
c'est
pas mal pour.
Oui, c'est ça, voilà. Ça, c'est super. C'est vraiment très important. Et il y a quelque chose que moi, qui a beaucoup marché pour moi et que j'explique à mes patients. En anglais, on appelle ça guided imagery. Donc, c'est l'image, c'est l'image guidée ou la méditation
la visualisation,
guidée, peut-être.
Ouais.
Voilà, et donc c'est vraiment écouter, ça peut être travailler avec les sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends. Et ça, je vais l'utiliser beaucoup aussi avec les angoisses, la phobie. C'est vraiment réussir à se recentrer. Et ces moments-là, c'est si jamais la culpabilité est constante au point que ça en devient presque obsessionnel, hein, qu'on endort mal, que bon, voilà, ça c'est plus peut-être pathologique certes, mais ça peut en arriver là. Surtout quand quelqu'un est très malade ou qu'il y a une forme de traumatisme, hein, qui se passe dans notre pays, dans le pays de notre famille. Ça, c'est vraiment au cas où l'anxiété, elle est constante. Maintenant, j'utilise ces petites techniques plutôt quand on essaye d'ouvrir la communication avec la famille. Voilà. On sait qu'on va peut-être parler de quelque chose de difficile, peut-être qu'on va leur annoncer qu'on peut pas venir à un certain événement, et donc on se recentre et on met en place toutes ces petites techniques pour diminuer l'anxiété, pour être vraiment clair et être complètement aligné avec ses choix. Et ça nous permet aussi de mieux s'exprimer et potentiellement de véhiculer une information de façon claire et précise.
La culpabilité avec les enfants, c'est un sujet qu'on avait un petit peu abordé avec Adélaïde Fulconis, qui avait participé à un épisode il y a à peu près un an sur les enfants. Donc, on peut l'aborder. Si vous voulez rentrer en détail sur ces sujets-là, n'hésitez pas à aller retrouver l'épisode en question. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Mais Vous avez certainement des stratégies complémentaires aussi. Comment est-ce qu'on peut vivre par rapport à ça ? Effectivement, j'ai eu plusieurs questions à ce sujet. Je pense notamment à En Famille au Canada qui dit « Ma fille de 7 ans me reproche de l'avoir arrachée à la France. » C'est vachement jeune, c'est vachement fort. Ou encore Be Loves Beautiful Things, qui dit que son fils de 4 ans et demi lui dit qu'il veut absolument rentrer vivre en France. Il veut passer du temps avec ses grands-parents, avec sa famille, etc. Comment gérer ça ? C'est vachement dur quand ça vient presque de sa propre chair, ses enfants, tu vois ?
Ah oui, ça me fait de la peine. En effet, je me mets à la place de la maman, ça doit être, ou des mamans, deux mamans qui ont partagé ce vécu. C'est pas facile. Ça, c'est sûr, ça peut créer, en effet, beaucoup de culpabilité. On a l'impression de mal faire. Et pourtant, et là, on est tiraillé, hein, parce que on a envie que nos enfants soient, on a envie de les écouter, on a envie de leur donner ce qu'ils ont besoin, et en même temps on est peut-être parti pour nos propres raisons, donner d'autres opportunités aussi à nos enfants, et à 4 ans et demi ils peuvent pas forcément le comprendre.
Bien sûr, même à 7 ans c'est tout petit.
Et à 7 ans, ouais. Voilà, tout à fait. Alors je ne sais pas quelle est la condition, moi il me manque un peu d'éléments, je ne sais pas si ces enfants sont nés en France et donc du coup ils ont vécu que ça, je ne sais pas s'ils sont nés ici et ils ont l'impression, enfin pardon, ici aux États-Unis ou ailleurs, pardon, hein, j'ai dit ici, où ils ont l'impression que finalement ils obtiennent beaucoup plus d'attention quand ils sont avec leurs grands-parents, leurs cousins, leurs cousines, ce qui est vrai, hein. D'ailleurs, je le vois même avec ma fille.
Hein, on revient à ça.
Voilà. Mais puis non, je pense aussi que à part si on a plein de d'enfants, je pense que mine de rien, on est nous-mêmes expatriés, on a notre famille elle est loin, on a nos réseaux, un réseau social, mais peut-être que on est encore en train de le construire, ça dépend de où on est dans notre expatriation. Donc quelque part, avouons-le, l'attention qu'ils ont en France, elle est quand même beaucoup plus forte que l'attention qu'ils vont avoir ici. Ils sont beaucoup plus sollicités, c'est plutôt ça que je veux dire. Il va y avoir plus de monde, les cousins, les oncles, les tantes, tout le monde veut les voir. Bon, si ces enfants sont nés en France, je pense qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui les amène à penser comme ça, qu'est-ce qui leur manque, comment on peut mettre... Plus souvent, si c'est l'interaction avec les grands-parents, c'est peut-être, je sais que c'est difficile, hein, il y a cette histoire des écrans, mais pour le coup, vraiment, c'est important de les connecter avec les grands-parents. Si ça ne pas le faire, c'est de leur apprendre d'être derrière les écrans, créer de la communication. Moi, je sais que parfois, je mets ma fille avec ma mère, donc sa grand-mère, et elles interagissent. Via un jeu, ma mère va lui raconter une histoire. Ça crée des liens. On a l'impression comme ça que on est peut-être un peu moins loin. Alors autre chose qui me vient à l'esprit, quand l'enfant est en demande, il faut tenter au maximum de lui donner. Ouais. Voilà. Alors je sais que parfois c'est pas possible parce qu'on est sur le chemin, je sais pas, de l'école,
le décalage horaire.
Voilà. Mais on lui explique, on met les mots, et alors on normalise. On crée une communication dès le départ avec, même quand ils sont tout petits, on leur parle avec la même, presque la même intensité presque que celle avec laquelle ils nous parlent.
C'est en prenant très au sérieux finalement sa demande aussi.
C'est ça. Je comprends, normaliser, c'est difficile. Papy, mamie pensent beaucoup à toi. Tu leur manques aussi. Dis-moi comment on peut... qu'est-ce qui te manque exactement ? Identifier, mettre plus... Donc, comme je disais, mettre des choses en place pour pouvoir répondre à ses besoins. Parler de la prochaine fois qu'on va les voir. Mettre aussi les grands-parents dans la communication, les aider à être plus dans l'empathie, d'inclure l'affectif dans leur conversation pour pouvoir ouvrir cette conversation avec l'enfant. Et puis alors, bon, je sais que moi je suis psy, donc ce que je vais faire avec un enfant en thérapie n'est pas ce qu'un parent va faire, mais à travers le jeu, on peut parfois aider un enfant à communiquer quelque chose qu'il a du mal
à exprimer. Et même des tout petits d'ailleurs.
Exactement, bien sûr. Mais après, voilà, j'aime quand même répondre aux questions de façon honnête. Il n'y a pas de solution miracle. c'est difficile, surtout si les enfants sont nés dans le pays. Je ne sais pas depuis combien de temps ces enfants sont dans le pays d'accueil, de tenter de recréer ce qu'il y avait avant dans le nouveau pays, de créer des liens sociaux. Voilà, la langue, l'apprentissage de la langue va aider, le temps va aider, et de rester toujours très, très, très connecté avec l'émotion de l'enfant et de ne pas prétendre, en fait, parce que ça nous met mal à l'aise, hein, ouais. Finalement.
Bien sûr.
Voilà, et de ne pas adresser le sujet.
Sur la thématique de la parentalité, on a une auditrice qui a préféré rester anonyme, qui nous parlait, en fait, de ce challenge aussi, en fait, de ne pas... En tout cas, d'avoir la sensation de ne pas pouvoir guider ses enfants comme les autres parents. Alors, elle est aux États-Unis, donc les autres parents américains. De se sentir un peu en décalage et du coup de se dire, bah, mes pauvres enfants, finalement, ils n'ont rien demandé. Et je leur impose ce décalage culturel parce que c'est un couple de Français. Et après tant d'années, en fait, elle dit, bah, voilà, on est toujours un peu décalé. Et au final, du coup, elle se dit, mince, mes enfants sont nés aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de racines, ils sont ni français ni américains à cause de nous, les parents.
Alors, c'est intéressant parce que dans cet exemple, les enfants sont pourtant nés aux États-Unis. J'ai l'impression qu'ils sont là depuis un moment, donc il y a quand même certainement un certain réseau social qui s'est créé. Les enfants sont certainement intégrés, voilà. Alors mais ça c'est important parce que du coup, est-ce que c'est le ressenti du parent,
oui.
Est-ce que c'est le ressenti de l'enfant?
Clairement, c'est la maman qui
c'est
a
la
ce
maman.
Ressenti. Ouais.
D'accord, parce que l'enfant
s'impose,
peut-être
du coup,
lui.
Cette culpabilité,
Mais c'est ça, parce que ça se trouve. Moi déjà, finalement, je demanderais aux enfants comment vous ressentez l'expérience. Est-ce que vous sentez plus français, plus américain? Est-ce que ça vous gêne qu'on parle français à la maison? Est-ce que vous auriez envie qu'on vous intègre plus finalement, ou pardon, qu'on mette plus en place des choses qui nous rappellent nous notre propre culture pour que vous ayez aussi ce patrimoine-là? Ou est-ce que justement ça vous pèse? Est-ce que vous avez l'impression qu'on... voilà. Donc, moi déjà, j'ouvrirais la parole parce que ce que je dirais en fait finalement à cette personne, c'est est-ce que cette culpabilité, elle vient pas plutôt d'une insécurité personnelle et peut-être que les enfants sont super bien, heureux et super adaptés, etc. Bon, maintenant, admettons que les enfants ont dit quelque chose, ont fait ressortir un certain malaise ou même tout simplement dans le contexte de la question comment être un petit peu plus intégré, comment être un peu plus au courant, être un peu plus pouvoir répondre aux besoins un peu comme les autres parents américains. Moi, je dis, il faut être curieux. Je sais, ça paraît comme ça, un peu simple comme réponse, mais être curieux, poser des questions, faire partie de groupes. Moi, j'ai des groupes Facebook reliés à la ville, à Brooklyn où je vis, parce que on va s'entraider entre parents, on va savoir quels sont les événements qu'il y a dans le quartier, quels sont en fonction de, je sais pas, Halloween, machin, à quel moment il faut, s'enregistrer pour le lycée, quelle est la démarche. Vraiment ne pas hésiter à demander aux parents de ne pas s'isoler. Alors il y a quelque chose aussi chez un des risques peut-être de l'expatrié, et en même temps ça reste une force aussi, donc c'est pas une critique, hein. On a tendance on va se retrouver un peu, on va chercher le côté familier, donc on va chercher à être parfois entre Français,
ouais, à recréer finalement ce qu'on connaissait ailleurs.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, ça fait partie des techniques qu'on évoque, hein. Attention, c'est très bien d'avoir un réseau de Français parce que ça fait partie de, comme je disais, c'est rassurant. Et puis on peut parler aussi, on est moins isolé, etc. Bon, mais peut-être que parfois, ça nous isole de trop dans l'autre sens. Et donc je ne dis pas que c'est le cas de cette personne, mais donc ne pas hésiter à, sans forcément, parce que je sais que certaines personnes vont dire, j'ai du mal à créer des liens sociaux avec des Américains, je me sens vraiment déconnectée. Eh bien, je ne vais même pas jusque-là, je parle juste pour le bien des enfants, de créer ces groupes, en fait, où on est constamment au courant, être curieux, s'éduquer sur la question, et puis faire confiance aux enfants aussi, parce que les enfants nous apprennent énormément, et souvent ils savent, parce que les écoles quand même font un bon boulot de les prévenir, de leur dire, de leur rappeler les deadlines, etc., en fonction de l'attente, en fait. Moi, je pense même aux grands-enfants qui vont après au collège, qui doivent apply.
Les universités, tu veux dire, le College America.
Voilà. Ouais. Voilà, pardon, voilà. Et donc, faire ça en avance, c'est vrai que parfois, on n'y connaît rien. Que les tests, les machins...
Donc, faire confiance aussi au système qu'on a choisi, dans lequel on met nos enfants. On a parlé de bien-être. On a parlé, en tout cas, de poser des limites pour se souvenir, pour ne pas s'oublier. Il y a Stéphanie qui nous envoie un message et qui dit « Je veux partir en vacances et me », et alors elle écrit en capital, « me reposer sans toujours rentrer voir ma famille ». Et je me souviens, moi, tu vois, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais rencontré un Français qui me disait « Ah, oh, mais... on parlait de vacances, puis je disais « Bah, moi, je vais rentrer en France, tu vois, enfin, ça va être cool ». Et il me dit « Ah non, mais moi, j'en ai ras-le-bol, je veux pas avoir à rentrer en France sous prétexte que je suis Français. Je veux pas, en fait, que mes racines me dictent finalement le peu de vacances que j'ai, où est-ce que je vais partir, etc. » Alors, je sais pas si, je vois que ça te fait sourire. Il y a cette première chose. Et puis, par rapport à ce bien-être et cet épanouissement personnel, on a A Piece of Chloé qui nous dit « Je culpabilise énormément d'être heureuse, en fait, dans le pays que j'ai choisi, alors que je manque à mes proches. » Alors, je sais pas si tu veux revenir sur ces deux questions relatives à l'épanouissement.
C'est pas facile, parce que la première, je crois que, enfin, je veux pas généraliser, mais beaucoup de gens le vivent au moins une fois, ce sentiment que j'appellerais d'obligation. Je dois rentrer en France pour voir ma famille, et puis alors si en plus avec mon conjoint la famille elle est pas à côté, eh ben on divise en deux et on se retrouve dans différentes parties du pays et on profite pas du tout. Je suis honnête, ça c'est très compliqué, parce que j'ai déjà réfléchi pour moi-même, comment justifier à ses proches qu'on va venir en France, aller pour skier au mois de février dans les Alpes, on va pas venir les voir. Ouais. Voilà, c'est compliqué.
Quand on habite en Allemagne, c'est différent. Quand on habite à 10 000 km, j'imagine
oui,
c'est
une façon de. Oui, voilà.
J'imagine. Ça, voilà. J'imagine. J'ai jamais habité en Allemagne, mais la proximité est différente.
Ça, c'est vrai. Non, c'est important de le rappeler. Ça, c'est très important. Combien de fois on peut rentrer? Quelle est la proximité avec la France? Combien de fois on rentre par an? Je veux dire, si vous rentrez tous les 4 mois, 3 mois...
C'est pas grave s'il y a une fois où on zappe, quoi.
Je pense que c'est pas grave, voilà. Et encore, cette notion de grave, elle est très subjective. Hein. Mais voilà, effectivement, c'est pas très grave, etc. Bon, quand on rentre une fois par an, je pense que c'est une question aussi de priorité. Je sais que quand je dis ça, ça peut faire un peu peur. Je ne dis pas à travers cette phrase que notre famille n'est pas une priorité pour nous. Mais effectivement, quand on a maintenant des enfants, par exemple, et qu'on a envie, je ne sais pas, de leur montrer une certaine partie du pays, parce que ça nous rappelle notre enfance, parce qu'on a envie, eh bien, je suis honnête, ce n'est pas évident. Ça va dépendre de la relation que vous avez avec votre famille, de la communication qu'on peut mettre en place, et aussi de votre capacité d'assumer. C'est vraiment une question d'assumer son choix et d'être bien dans ses baskets et de dire, bon, bah voilà, nous, on va rentrer. Alors, effectivement, il s'avère qu'on sera en France, mais on sera quand même pas à côté, hein, parce que c'est pas comme si on était à une heure et qu'on venait pas vous voir. Là, ce sera encore un autre sujet. Voilà, c'est important. J'ai envie, je prends l'exemple de skier parce que c'est vraiment quelque chose avec lesquels beaucoup de Français, par exemple, ont grandi, qui va pas forcément être accessible facilement dans tous les pays. Mm-hmm. Donc, on a peut-être envie de rentrer, avoir ça. C'est plus accessible aussi financièrement, ouais, en France que, par exemple, je pense aux États-Unis, ouais, où c'est assez cher. Ça peut faire partie. Mais ça, encore une fois, ça vient toucher à la qualité au lien de confiance qu'on a avec la famille, la communication qu'on a avec la famille et la capacité à assumer ses choix, ouais,
et à poser ses limites.
Poser ses limites, ouais, exactement. Ouais. C'est pas évident. Je suis pas très fan de ma réponse parce que je suis d'accord que c'est pas facile. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises moi-même de me dire c'est quand même. Je pousse même le bouchon plus loin qui est on a des vacances de façon limitée et finalement on passe une partie de ses vacances en France alors que peut-être qu'on aurait envie de les passer ailleurs.
Ou d'explorer un peu plus le pays dans lequel on vit, c'est clair.
Exactement. Ouais. Voilà.
Alors justement, bah, ça amène un peu une question par rapport à la gestion des attentes des autres. On a Émilie qui nous demande très clairement comment est-ce que je peux répondre à mes proches qui me culpabilisent sans pour autant les fâcher. Donc je ne sais pas si tu as des astuces de communication non violente. Et par rapport à cette attente des autres plus indirecte, là, on a Magali qui, elle, est infirmière. Elle s'est expatriée au Québec récemment. Et qui dit, j'ai certes de la culpabilité d'avoir laissé ma famille, mais encore ça, j'arrive à le gérer. Mais exercer mon métier d'infirmière ailleurs que dans mon pays, c'est un sentiment assez difficile à vivre finalement au quotidien.
D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait justement de la culpabilité qui nous est... La culpabilité communiquée par les autres. Hein. Alors, je ne vais pas répéter cette partie-là, mais comme je disais, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est est-ce que la personne qui communique son sentiment, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est autre chose que de la culpabilité, est-ce que finalement, ce que moi, je ressens, ce n'est pas ma propre insécurité qui remonte quand quelqu'un vient me dire... que je lui manque, hein, ou que je ne serai pas à l'appel pour tel ou tel événement. Ça, c'est très important. Maintenant, si la personne est effectivement dans la culpabilité, et tout à l'heure, je donnais un exemple, alors ça n'a pas besoin d'être aussi extrême, certes. Là, voilà, il faut, on tente de rester calme, on se recentre, on ouvre la communication, comme je disais, on essaie de comprendre pourquoi cette personne nous attaque, ou pour qu'est-ce que la personne cherche à nous dire. On clarifie, voilà, c'est le terme. On clarifie, est-ce que ce que je comprends, c'est vraiment le message que tu essayes de m'exprimer, parce que finalement, voilà, parfois ça peut être une communication, miscommunication, je ne sais plus comment dire en français.
Des malentendus.
Un malentendu, effectivement, voilà, exactement. Donc on clarifie, on utilise le jeu, comme tu disais très justement, plutôt que le tu. Donc, on se recentre, on assume ses sentiments, on parle de ce que nous, on ressent pour pouvoir donc ouvrir la conversation sans attaquer, sans être dans l'accusation. On met des limites claires, on explique ce qu'on est capable de faire, ce qu'on peut faire, ce qui malheureusement est plus difficile. On reste ferme. Ferme ne veut pas dire froid, ne veut pas dire distant, ne veut pas dire désagréable. Ferme, ça veut dire on est sûr de soi, exactement. D'accord. Et puis on trouve des compromis. On laisse pas la personne. Elle est peut-être en souffrance. Elle cherche à nous dire quelque chose. Cette personne, elle nous aime. Sinon, bah, elles sont, ouais. Voilà, ça lui ferait ni chaud ni froid finalement. Donc on cherche un terrain d'entente ensemble. Alors, par contre, par rapport à la
Magali.
À la question, oui. Alors, par contre, là, j'ai un peu de mal à comprendre. Est-ce que, selon toi, comment toi tu la comprends la question que elle, sa culpabilité est reliée au fait qu'elle ne passe pas son métier
en fait,
dans
son pays. En fait, je crois que c'est relié à une situation ressentie dans les milieux hospitaliers en France qui est très difficile. En post-Covid, où ça a été des années très compliquées, un peu partout dans le monde d'ailleurs.
Tout à fait.
Et donc l'impression finalement d'avoir abandonné son corps de métier qu'on lui a appris en France pour avoir échangé avec elle, c'est un sentiment qui est un petit peu dur à vivre, de se dire bon. Je suis contente de ma nouvelle vie, ça se passe bien, etc. Mais j'ai abandonné les copains pour qui ça continue d'être très difficile finalement, et donc des patients potentiellement. Je crois que c'est un peu ça.
D'accord. Ah oui, non, je comprends très bien. Effectivement, c'est surtout quand on est passionné et qu'on fait un métier comme ça, on est extrêmement tourné vers l'autre.
Ouais.
Voilà, exactement. J'ai beaucoup d'admiration pour les métiers comme ça. J'ai envie de dire à cette personne qu'elle continue à faire ce métier. Alors, elle le fait ailleurs, certes, mais elle apporte encore du bien aux autres. Elle le fait peut-être de façon, je dirais pas mieux ou moins bien, mais elle fait le métier peut-être de façon plus posée, parce que peut-être
dans
qu'elle
des
est
meilleures conditions.
Plus, voilà, ou elle est peut-être plus, exactement, dans les meilleures conditions. Plus épanouie dans son nouveau pays, etc. Donc ça joue aussi avec la façon dans laquelle on va travailler. Je dirais juste, il y a toujours une façon de participer de loin. Ça peut être faire du volontariat, ça peut être faire des donations. Je sais que au moment où la guerre en Ukraine s'est créée, et j'ai proposé, vivant dans un coin de Brooklyn où il y a pas mal d'Ukrainiens, j'ai proposé de faire du volontariat, voir. Voilà.
C'est vrai qu'en fait, on a des manières très dématérialisées finalement de contribuer et de continuer à garder un lien. Donc on l'a dit avec la famille, mais ça marche aussi avec, avec son corps de métier. Avant de conclure, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui du couple binational. Et je pense au témoignage de Romain qui vit en Californie depuis 11 ans. Et pour lui, la culpabilité commence à... Elle est récente, si tu veux. Il a été très épanoui, etc. Comme beaucoup de gens, c'est un peu le signal que les parents vieillissent qui rend les choses difficiles. Mais le fait d'être dans un couple binational, pour lui, la culpabilité est double. C'est un peu ce qu'il, enfin, c'est la manière dont il exprime, c'est la double peine, il le dit. L'un est chez lui, l'autre a envie de rentrer, mais du coup, il va falloir déraciner l'un pour rentrer chez l'autre. Et c'est quelque chose, c'est un équilibre qui est assez difficile à gérer. Est-ce que c'est, je sais pas, quelque chose qui t'évoque des conseils, des stratégies ou des situations que tu as rencontrées?
Oui, alors c'est un sujet qui est complexe encore. Alors, il y a deux sujets en un par rapport à cet exemple. Le premier, c'est apparemment tout allait bien et puis la culpabilité est arrivée de façon plus récente. Effectivement, déjà, j'inviterais cette personne à identifier s'il y a eu des changements. Tu disais, Anne-Fleur, potentiellement les parents qui vieillissent. Alors, je ne sais pas si c'est un élément que cette personne apporte, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un changement? Est-ce qu'il y a un changement dans sa vie? Est-ce qu'il y a un changement du côté de sa famille en France? Est-ce qu'il y a aussi un changement dans sa relation? Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce que il peut y avoir comme ça des petites modifications du quotidien qui tout à coup vont un peu nous rappeler à l'ordre. Ah mince, voilà, ça peut être la naissance, mon premier enfant, voilà, et tout d'un coup ce sentiment un peu d'être bloqué. Maintenant ça y est, je suis vraiment dedans. Si je suis mariée avec ou qu'on parle d'avoir des enfants, peut-être que c'est ça, avec ma conjointe, ça veut vraiment dire qu'on se voit rester longtemps. Aïe, 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 j'y avais pas pensé comme ça. Ça y est, la réalité me rattrape un peu.
Ouais.
Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, j'ai cette problématique, je dirais de façon assez régulière avec mes couples qui ont deux cultures. Ce que je dis souvent, c'est il faut être absolument en accord. Il faut trouver un juste milieu, il faut trouver un équilibre. J'ai eu la chance d'écouter le podcast que tu as fait récemment avec...
Sur le couple, avec Adélaïde Sulconis, qui est
avec Adélaïde,
okay.
Sur le couple, exactement. Et elle parle beaucoup de ça. Elle parle vraiment de communiquer, de trouver, d'être un peu sur la même longueur d'onde, d'être sûr qu'on va pas faire trop de compromis, qu'on va pas subir. Et alors, pourquoi j'évoque ça? Parce que, quelque part, quand il part faire son expatriation, il fait un premier compromis. Quand il décide de rester et il reste dans le pays de sa conjointe, il fait un autre compromis. Et ça reste, et c'est un pacte. Alors, c'est peut-être pas un pacte qui est conscient, c'est peut-être pas quelque chose qu'on a vraiment évoqué, mais c'est quelque part un accord. Et donc, je dis souvent, s'il y a quoi que ce soit qui se passe en France, et que vraiment, après avoir essayé, utilisé plusieurs techniques, après avoir parlé, inclus la famille, trouvé des compromis au maximum, si vraiment la culpabilité, elle en est au point que ça en devient vraiment invivable ou très violent ou très très stressant au quotidien, je dis souvent il faut voir l'expatriation du conjoint, la possibilité que le conjoint vienne avec nous en France, peut-être de façon temporaire, comme un pacte, comme faisant partie du pacte de confiance qu'on a mis en place dans le mariage ou dans cette décision d'être ensemble. Alors ce n'est pas évident, je comprends bien, parce que admettons peut-être qu'elle ou il, hein, si on prend d'autres exemples, ne parle pas la langue, peut-être que le métier que il ou elle
des fois n'existe pas, s'exporte
n'existe
pas, ou...
pas exactement, ce n'est pas évident, et si ça c'est pas possible, il faut trouver d'autres mini compromis. Ça veut dire peut-être pour cette personne de voyager un petit peu plus souvent, de mettre, comme je disais dès le départ, enfin au début de notre conversation, par rapport aux parents qui vieillissent ou les grands-parents qui vieillissent, je disais mettre un plan de soutien en place, travailler avec la famille, potentiellement avoir de l'aide, un membre de la famille qui vient, des soins à domicile, et puis pratiquer constamment de la bienveillance. Mais c'est vrai que c'est très compliqué quand on est avec un couple comme ça, de cultures différentes. Mais alors, quand même, je tiens à dire quelque chose, c'est si nous, on a décidé d'être dans cette relation, d'être dans cette configuration, c'est aussi parce qu'on y retrouve, on y trouve notre compte, on y retrouve quelque chose qui nous anime, qui nous rend heureux, et se souvenir de ça, c'est très important. Sinon, on est constamment tiraillé. Ouais,
faut être bienveillant avec nous-mêmes. Écoute, c'est super intéressant tout ça. Pour conclure, moi, j'aimerais bien parler de celles et ceux qui ne ressentent plus trop cette culpabilité, ou en tout cas qui l'ont surmontée. Alors, je vais te partager quelques commentaires que j'ai reçus, et puis je vais te laisser après champ libre pour réagir. On a Laurie qui me dit « Moi, ce qui me fait culpabilité, c'est que personne ne me manque. » Bon, voilà. on a Nicolas qui nous dit « Il faut résister, on ne choisit ni son compagnon, ni son travail, ni son lieu de vie. » Pour ses parents. C'est vrai si on vit en France, c'est vrai si on vit à l'autre bout du monde. Oui, c'est vrai, mais il y a la théorie et la pratique, moi j'ai envie de dire. On a Magali qui nous demande qu'est-ce qu'ils ont fait les expats pour ne plus se sentir coupable. On a Lauriane qui nous dit qu'elle est très rassurée d'entendre que c'est un vrai sujet, parce que c'est pas toujours facile à assumer d'en parler finalement en public, parce que c'est presque un aveu d'échec parfois. En tout cas, ça peut être interprété comme tel. Et il y a cette peur du jugement, en fait, de se dire « Ah, bah, si tu te remets en question, c'est que t'es pas vraiment sûre de toi ». Et puis enfin, on a Laura qui dit qu'elle a longtemps subi en fait cette culpabilité, et pour elle, en fait, le cap des 10 ans, paradoxalement ou non, je ne sais pas, a été très libérateur. Le suivi psychologique l'a énormément aidée. Elle donne l'exemple qu'elle a vécu 3 décès à distance, dont le dernier qui a été très très brutal, et pourtant, eh bien, ça a eu l'effet inverse. Et je voulais le mentionner parce que ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour tout le monde, mais je trouve que ça donne aussi une lueur d'espoir. C'est-à-dire que la culpabilité n'est pas un sentiment irréversible. Je te laisse réagir à tout ça.
Tout à fait. Dans ce qu'elle dit, alors, il y a énormément de choses, mais effectivement, le temps aide, soyons honnêtes. Le temps de construire ses repères, d'être complètement aligné avec ses choix, de voir ses enfants grandir, si on a des enfants, de les voir s'épanouir, heureux, de maintenir la communication, faire des allers-retours, inviter nos familles aussi à venir nous voir, voir notre quotidien pour qu'aussi ils comprennent normaliser un petit peu les choses. Donc ça, c'est le temps qui aide. Hein. Et ça, et elle touche un très grand point. Après, est-ce que c'est les 10 ans ou autre ?
Pour Laura, elle, ça a été ça. Mais oui.
Voilà. Après, suivi psychologique. Alors oui, effectivement, c'est un travail aussi. Tout ce que j'évoque depuis tout à l'heure, les techniques psychologiques, la bienveillance, se déculpabiliser en étant très aligné avec... Donc, assumer ses choix, comprendre son fonctionnement psychologique, comprendre aussi les liens qu'on a avec la famille, conscient, pas conscient. La raison pour laquelle on est parti, consciente et pas consciente, ça, c'est pas quelque chose qu'on a évoqué aujourd'hui. Mais ça fait partie du travail. Donc oui, un suivi psychologique. Mais bon, le suivi psychologique, c'est pas seulement parce qu'il y a culpabilité. Ça peut être tout simplement parce qu'on a envie de mieux connaître, se connaître soi-même, mieux gérer ses émotions. Et puis donc ça, forcément, ça aide dans la culpabilité, ou réduire la culpabilité. Mais finalement, la première question que tu as posée, c'est parlons de ces gens qui n'ont plus de culpabilité. Alors moi, c'est super, voilà. C'est un vrai travail sur soi. C'est une capacité c'est une résilience. C'est tout ce qu'on a évoqué, donc. Mais il y a aussi, on peut argumenter que certains vont. Encore une fois, ça dépend de la relation qu'on a avec notre famille.
Ouais, bien sûr.
Peut-être que le manque de culpabilité, c'est aussi une façon
De se protéger.
De se protéger, ouais. Ou de se rappeler qu'on a fait le bon choix et qu'on a laissé derrière nous des choses un peu plus désagréables. Et puis, alors, paradoxalement, la culpabilité peut être aussi reliée à des choses qui sont désagréables du passé. Mais comme on les a pas réglées, eh ben, elles viennent nous hanter et ça vient se manifester comme une culpabilité. Voilà. Pour comment être au clair ou être complètement aligné avec ses choix, si constamment, je rumine des choses qui n'ont pas été réglées de l'ordre de mon passé. Et d'ailleurs, ça sera ressorti via ce que je disais tout à l'heure, une communication pas forcément très saine, des attaques, de la défensive, une demande de validation, etc.
D'accord. Eh ben écoute, c'est super intéressant. Tu consultes sur New York et en Californie, c'est ça ?
Oui, alors effectivement, ça dépend de l'état dans lequel tu es licensed, c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis licensed en Californie, dans le New Jersey et à New York, me permettant donc de voir des patients dans ces pays-là, dans ces états-là. Voilà, et en France.
Ok, donc s'il y a des gens qui souhaitent rentrer en contact, je mettrai tes coordonnées aussi dans la description de cet épisode. Tu consultes en ligne aussi bien qu'en personne ?
Alors pour l'instant, je suis encore en ligne, mais avec la possibilité d'accueillir en personne bientôt, effectivement, à Brooklyn.
D'accord, super. Merci infiniment pour tous ces éclairages. C'était passionnant. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aussi, vous aurez peut-être obtenu des réponses à vos questions et des clés de compréhension de ce que vous ressentez. Si vous avez d'autres idées de thématiques que vous souhaitez aborder dans French Expat avec des experts, n'hésitez pas à m'écrire directement. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Belle journée à toi aussi, Elena, et à bientôt.
Merci. Au revoir.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Elena Covo pour ce chouette moment passé ensemble et pour tous les éclairages, toutes les réponses qu'elle a pu nous apporter dans cet épisode. Merci infiniment à vous aussi d'avoir joué le jeu et de nous avoir envoyé vos questions, vos ressentis, vos témoignages. Ça compte énormément et ça m'a beaucoup aidé à préparer le contenu de cet épisode. Alors merci. J'espère que vous vous y êtes retrouvés et que pour ceux qui ont participé, vous avez pu trouver des éléments de réponse. Si cet épisode vous a plu ou que vous pensez qu'il pourrait être utile à votre entourage, n'hésitez pas à leur envoyer ou encore à le partager sur les réseaux sociaux. Le must pour nous, pour booster l'algorithme des applications d'écoute, c'est de laisser 5 étoiles et un petit mot sur Spotify et Apple Podcasts. C'est gratuit et ça compte énormément. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, on reprend le cours de notre programmation et je vous proposerai une nouvelle histoire dont je vous propose de découvrir un extrait.
Ce qu'on a fabriqué, ce qu'on a produit, c'est pour redonner aux gens des souvenirs du pays ou de leurs parents ou quelque chose, mais ils ont retrouvé un goût, une saveur, un parfum qu'ils avaient quand ils étaient en Europe, petits, grands, peu importe. Mais on s'est vraiment attaché à ça et c'est toujours notre ligne de direction. C'est tout ce qu'on fait, ça doit te donner un feedback olfactif et tout de suite, ça doit te pigner dans la tête. Ouais, on va dire que ça fait comme avec Ratatouille. Quand il mange la ratatouille et qu'il pense à sa mère, il s'est fait bobo et autres. On va pas dire qu'on est jusqu'à ce niveau-là, mais.
C'est la madeleine de Proust.
Ouais, c'est la petite madeleine de Proust pour les Français. Ça leur rappelle leur enfance, leurs vacances. Et donc, on a réussi notre boulot. Ça a donné du plaisir aux gens.
En attendant mardi prochain, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et une très belle semaine. À mardi, portez-vous bien. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.